Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, dernière émission consacrée à cette semaine sur la véhémence. La véhémence, durant toute la semaine, avec historiennes et historiens et philosophes, c'est comme si on avait tenté d'apprendre à s'en méfier, à s'en déjouer, à déjouer au fond la violence verbale. Mais si on se met du côté de la littérature, alors qu'est-ce que ça serait une littérature qui parlerait doux, qui parlerait comme ce que Chloé Delhomme justement appelle cette voix pâteuse qui dans une bouche apathique serait rien d'autre qu'un mince filet d'eau tiède. On ne le voudrait pas évidemment, et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir ce soir justement d'avoir à mon micro sur France Culture Chloé Delhomme. Bonsoir Chloé Delhomme.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous venez de publier « Mes bien chères sœurs » aux éditions du Seuil. Désolé, ça sent le fauve, il est temps d'aérer, dit-on sur la couverture. Oui, c'est un cri. Pourquoi ne pas le dire? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion même de véhémence?
La véhémence, je pense que c'est ce qui reste quand on n'a plus rien d'autre. Et comme pour mes bien chères sœurs, il s'agissait d'une sorte d'appel féministe, je me sentais nue avec juste la langue pour m'aider et le cri. C'est en littérature, souvent, on n'a pas à se méfier de la véhémence, on a plutôt à s'en empérer ou à se laisser porter par elle. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu... je crois que c'est mon ossature, mine de rien.
Vous avez une œuvre abondante depuis... 2000, depuis ce premier livre qui s'appelait « Les mouflettes d'Atropos »
oui.
Et qui déjà prenait à bras le corps, à bras le cœur, votre histoire. On a dit que vous écriviez de l'autofiction, mais vous y avez justement brûlé, brisé votre langue. Il s'agissait déjà d'éclats de voix, en somme.
Oui, Les mouflettes d'Atropos, c'est mon tout premier livre. Il reprend l'expérience prostitutionnelle et la question de la jalousie. Et c'est un livre de fille en colère, très très en colère, mais complètement éclatée, avec une structure un peu psychotique, qui était un peu le reflet de ma psyché de l'époque. Et c'est vraiment peut-être le livre dans lequel, avec Dans ma maison sous terre, je suis le plus en colère. Et pour moi,
là, c'est de la véhémence. Là, on peut dire
oui,
effectivement
là, qu'il y a c'est vraiment de la véhémence. Oui.
Donc là, les phrases se brisent.
Oui, c'est très télescopé, c'est très assuré. Il y a beaucoup d'endophasie, il y a beaucoup de. J'ai essayé de faire en sorte que la langue soit à la mesure de la douleur ressentie. Donc, ça heurte, ça se brise, c'est pas toujours très facile à lire.
Mais c'est très drôle.
Disons que c'est toujours pareil, l'humour noir, la politesse du désespoir, quoi. Donc, il y a beaucoup de blagues dans les mouflettes, oui, énormément. Mais souvent dans mon travail, même quand c'est des sujets tragiques, il y a quand même beaucoup de blagounettes.
Oui. C'est l'histoire d'une femme qui est confrontée au frasque de son mari et alors qui invente différentes procédures, notamment des manières assez ingénieuses de castration qui lui fait manger en ragoût sa maîtresse.
Oui, voilà, j'avais plein de petites idées super pour au niveau de la némésis et j'étais très très en forme à l'époque, j'avais 26 ans. Un mari qui effectivement était très volage et au lieu de divorcer tout de suite, je faisais des petits fantasmes bien glauque, mais qui donne des scènes rigolotes dans le livre. Donc, je ne regrette rien, comme d'habitude.
Je suis pas sûr, d'ailleurs, de bien comprendre le titre « Les mouflettes d'Atropos ». Atropos, c'est la part qui coupe le fil de la vie,
oui,
c'est ça ?
Oui, Atropos, c'est la part qui coupe le fil de la vie. Et les mouflettes, c'était en hommage à Zazie dans le métro de Queneau.
Voilà.
C'est les petites mouflettes. Donc, en fait, les mouflettes d'Atropos... Dans le livre, c'est un peu l'idée que ce sont des prostituées qui se sont emparées de la paire de cisailles et qui vont se venger par castration. C'est une sorte de... J'étais très inspirée par le SCOM Manifesto de Valérie Solanas, en fait, déjà à l'époque. Et donc la société pour tailler les hommes en pièces. Et Valérie Solanas était pour... Enfin, c'est une très très grande misandre.
Et elle ça veut dire qu'elle aime pas du tout les hommes.
Non, pas du tout.
Elle
du
veut
tout.
Même les tuer.
Elle veut
fait.
Les tuer. Elle voudrait la suppression des hommes pour qu'on arrive à vivre entre femmes dans une société libre, équilibrée où toutes les filles sont détendues. Et j'avais eu tendance à l'époque à prendre le livre vraiment au pied de la lettre. Oui, complètement. Et en même temps, c'est très joyeux, Solana. C'est hyper violent. C'est elle qui a tiré sur Andy Warhol. Elle était passablement cinglée, mais elle avait de bonnes raisons biographiques. Et c'est quand même une langue incroyable aussi, le Scum Manifesto. On a affaire à un manifeste d'une violence folle, puisqu'elle est vraiment, pour l'éradication de la race masculine. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de très premier degré là-dedans. Mais en même temps, dans cette colère, dans cette violence, dans cette cruauté, parfois, il y a une poésie dingue. Enfin,
alors
moi,
justement,
je suis très sensible.
Oui, on est vraiment au cœur de ce qui nous intéresse ce soir, Chloé Delhomme. Bien sûr, Valérie Solanas, si on faites l'expérience, si vous tapez Valérie Solanas sur Google, vous allez, ou sur un autre moteur de recherche, vous allez tomber sur ça d'abord. C'est la femme qui a tiré sur Andy Warhol et Lou Reed ne lui a jamais pardonné. Bon.
Non.
Et d'ailleurs, le Scum Manifesto, il a été traduit assez récemment, je crois, en français. Et au fond, vous le donnez à entendre, et vous le donnez à entendre, au fond, la joie féroce de cette langue et son inventivité.
Disons que c'est parce que j'ai travaillé dans un cycle qui s'appelle Les Parleuses. Ce sont c'est Aurélie Olivier et des jeunes femmes qui s'en occupent. Il s'agit de remettre au goût du jour un peu des femmes écrivaines.
Ce que vous appelez le matrimoine.
Voilà, on est vraiment dans la question du travail du matrimoine. Et parmi ces figures, il y a Marie Shelley et puis plein d'autres autrices dont là, évidemment, les noms m'échappent, mais qui sont beaucoup moins connues, parfois même dans la SF. Et il s'avère que moi, j'avais très envie de travailler sur Solanas, même si c'est pas une figure rayonnante, c'est une figure très dark. C'est difficile de la défendre parfois, même auprès du public de féministes, mais je pense que c'est une colère saine, qui est extrême, mais qu'elle est, elle est importante à entendre à une époque où la place de la femme est toujours pas solutionnée, où on est toujours en une place très précaire et je pense à ça parce que nous sommes au chiffre de 104 féminicides à l'heure d'aujourd'hui. Et je trouve ça, c'est au-delà de l'intolérable ou d'inaudible, c'est qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que le potentiel de violence que les femmes ont, peut-être que ça va finir par se réveiller à force d'être toujours en oppression, en soumission et de se faire massacrer, quoi. Donc c'est pour ça que Solanas, quelque part pour moi, elle résonne comme une sorte de Lilith, un peu,
oui.
Comme une figure dangereuse, mais que la femme porte et qui peut se réveiller à tout moment.
Alors Les Parleuses, justement, c'est un beau projet, comment on peut les entendre
Alors elles sont en podcast, en fait, tous les mois. Il y a dans une bibliothèque ou un lieu culturel une conférence sur une autrice, suivi d'un atelier d'arpentage. Ça, c'est une méthode pédagogique qui vient des universités populaires. C'est une méthode d'apprentissage pour regarder les textes par petits bouts. Chacun a des petits bouts. Après, de façon collégiale, il revoit un petit peu le grand texte ensemble. Et puis, il y a des ateliers d'écriture aussi. Moi, j'avais travaillé sur des ateliers d'écriture un peu post-féministes où on imaginait une société où l'égalité homme-femme et où le IEL, IEL était fonctionnant. Ça se trouve en podcast, surtout Les Parleuses.
J'écris de chez les féministes hétéros qui se maquillent. Je serais volontiers resté chez les lesbiennes, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est dans Secret de bonne femme, mes bien chères sœurs. Il y a là, effectivement, une adresse qui reprend celle de Virginie Despentes.
Oui, tout à fait. C'est un palimpseste.
Hein, c'est ça. Ça a 13 ans, déjà, ce livre.
Oui. Oui, oui, ça a 13 ans, mais en même temps, je pense, pour le voir chez les jeunes lectrices, il est toujours aussi férocement défendu et présent. Hein. C'est
férocement
vraiment la
défendu.
Bible. C'est la Bible des petiotes, quand même, le King Kong Theory.
Oui.
Et des plus vieilles aussi maintenant.
Mais quand même, les choses ont vraiment changé depuis 13 ans.
Disons que MeToo, c'est récent quand même, et ça a fait beaucoup, beaucoup bouger les lignes. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective beaucoup plus forte, même auprès des hommes d'ailleurs. Et peut-être un rapport au collectif féministe qui est plus présent aujourd'hui que ça n'était il y a 13 ans.
parce que cette adresse qui, on va reparler effectivement de des féminicides, on peut même d'ailleurs en parler maintenant puisque tout est affaire de mots, Chloé Delhomme. Vous êtes une autrice, donc c'est de cela dont vous avez à prendre soin, même si on l'a compris, on l'a entendu, prendre soin dans le cadre de la langue et d'une langue effectivement qui a à faire avec la violence du monde, c'est pas nécessairement la cajoler, ça peut être la hérisser. Et donc dans ce livre, mes bien chères sœurs, vous ne parlez pas de féminicide, vous parlez de uxoricide.
Oui, parce que c'est le vrai mot.
C'est le vrai mot.
Uxoricide, c'est Uxor, l'épouse, et donc ici, voilà. Et normalement, si on appelle un chat, c'est un uxoricide. Le fait est que féminicide, déjà, on va pas se plaindre parce que maintenant, enfin, depuis, moi, je l'ai vu passer. C'est-à-dire que mon livre est sorti en mars. Il y a une fois où j'étais sur une radio locale et il y avait un féminicide qui avait lieu ce jour-là, un uxoricide en l'occurrence. Et la journaliste qui annonçait le fait divers comme un fait divers, s'est reprise après mon passage pour parler de féminicide. Donc j'ai pu voir un petit truc changer. J'ai l'impression que dans les médias, ils se font tellement aussi grâce aux réseaux sociaux.
Oui.
Où sur les réseaux sociaux, les féministes sont très 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 au taquet. Et les journalistes se sont fait quand même pas mal taper sur les doigts ces derniers temps. Et du coup, j'ai la sensation réelle que le terme de féminicide est en train de passer chez les journalistes et donc auprès du public, du coup. Et on arrête de parler de drame familial ou de « il était fou d'amour » ou de ce genre
de... Toutes ces euphémisations qui sont dégoûtantes, en fait.
Qui sont vraiment dégoûtantes, effectivement. Oui. Qui minimisent, qui mettent de la narration, qui mettent de la fiction... moi, quand ça m'est arrivé, puisque mon père a tué ma mère avant de se suicider, je me souviens très bien de la presse, parce que mon grand-père était fou, donc il avait gardé les articles à sa mort, je suis tombée dessus. J'ai vu les papiers qui avaient été écrits à la mort de mes parents, et c'était la voisine était allée témoigner qui lui offrait des fleurs alors qu'il lui foutait sur la gueule toute la journée. Enfin, on sait ce que ça donne, ce genre de couverture, quoi. Et tant que ce sera pas frontal, on s'en sortira pas. Et en même temps, c'est pas avec le Grenelle qu'on s'en est sorti non plus. Donc, je ne sais pas du tout comment faire pour les violences conjugales, mais j'ai l'impression que ça devrait être une cause nationale vraiment urgente, quoi, parce qu'on peut pas être dans un pays, en plus c'est en augmentation, 104 femmes qui ont été tuées sur le coup de leur conjoint ou ex-conjoint.
Une toutes les 3 jours.
Voilà, on est passé à une tous les 2 jours maintenant.
D'accord.
C'était tous les 3 jours jusqu'à l'année dernière.
Il y a une augmentation. Il y a un chapitre de votre livre qui s'appelle Statistiques,
oui.
où vous égrenez comme ça de manière effectivement froide, j'allais dire mécanique, effrayante en tout cas, ces chiffres.
Oui, tout à fait. Et puis ce qui est étrange, c'est que je n'arrive pas à me demander d'où vient cette augmentation. C'est pas une augmentation au sens où on aurait caché avant et que là on a tous les chiffres parce que c'est les mêmes faits qui étaient recensés de la même façon. Je me demande si peut-être avec MeToo, les filles ouvrent pas plus leur gueule, en fait.
Alors c'est de ça dont on doit parler, effectivement, ouais. Chloé Delhomme. Comment on ouvre sa gueule et comment la littérature peut en être le porte-voix, en somme.
Ouais.
On parle de votre premier livre, 2000, vous en avez écrit bien d'autres. On a dit parfois que vous étiez effectivement une autrice d'autofiction parce
oui.
que voilà la violence dont vous venez de parler, vous l'avez... à plusieurs reprises mis en langue, dans le Cri du Sablier notamment. On dit d'ailleurs que vous seriez toute prête à abandonner cette littérature formidablement inventive dans ses formes. Je pense notamment aux Sorcières de la République, pour vous lancer dans le grand roman naturaliste.
Alors, comment vous dire, Patrick Boucheron? Non, j'ai changé d'avis et je change d'avis régulièrement.
Ah,
c'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'étais dit que l'autofiction, j'avais fait le tour de type de forme parce que ma façon de la travailler est vraiment sur des dispositifs formels et qu'à un moment donné, j'avais fait un peu le tour de la question. Et là, je planche sur un livre depuis quelque temps où il va s'agir de moi, mais il n'est pas impossible, effectivement, que j'utilise un personnage cette fois-ci.
D'accord.
Voilà.
Donc là, on progresse vers le naturalisme,
mais c'est pas ma maison ni ma famille, le naturalisme non plus, donc je pense que je vais pas y finir non plus. Mais disons que là, j'ai peut-être la tentation du personnage. Là, ça me titille un peu. Parce que je m'étais beaucoup amusée avec les sorcières de la République. Où oui. Il y a plein de personnages dedans, les déesses de l'Olympe et tout un tas de sorcières.
Alors là, c'est vraiment très drôle. Et dans la forme, avec effectivement des... L'Olympe et disons Dieu, le dieu des chrétiens qui s'envoie des mails.
Oui, il y a Jésus et Artémis qui deviennent copains et qui s'envoient des mails. Ils vont ensemble à Oberkampf dans des soirées. Il se passe plein de petites choses rigolotes.
Mais justement, c'est important, Chloé Delhomme, de le rappeler, parce que voilà, vous êtes une autrice, vous parlez de choses graves, mais cette voix qui porte, cette voix si forte pour ouvrir effectivement la voix sur VOX, sur la parole des femmes, eh ben vous voulez justement qu'elle soit inventive et littéraire, parce que sinon c'est pas la peine.
Non, sinon
c'est ce
pas...
que vous lisez d'ailleurs chez Valérie Solanas déjà.
Oui, c'est-à-dire que je pense que pour être entendu et être efficace, le frontal, on a essayé, ça marche pas très bien. En tout cas, moi, je sais pas le faire de toute façon, et j'ai l'impression que ça marche pas super bien. C'est pour ça que la forme littéraire, disons qu'il y a un truc où j'ai pas fait exprès, c'est ma langue, parce que ma langue, bon, je travaille mes textes, mais je veux dire, elle vient quand même spontanément, c'est ma voix. Après, sur ce qui est de la question de l'humour, ça, c'était une volonté délibérée, parce que, comme stratagème pour neutraliser l'ennemi, n'est-ce pas ?
Oui.
À savoir, donc, les porcelets du patriarcat, je pense que l'humour est une arme qu'on n'a pas tellement tentée.
Et puis le néologisme aussi d'ailleurs, où les appelez les couilles idées dans
oui les couilles idées, les papatrons, les couilles idées, bah oui c'est mignon,
bah oui, et c'est mignon.
Puis ça c'est clair.
Et contre eux, vous proposez un jeu de société.
Oui.
Dès qu'il y a une remarque sexiste, on va dire, badaboum.
Voilà, dès qu'il y a la moindre remarque sexiste, au lieu de tenter de communiquer en montant sur ses grands chevaux, ou tenter de communiquer ce qui marche pas sur les remarques sexistes, on n'est pas entendu, on fait badaboum. En souriant et en se regardant entre filles.
Et toute seule, ça marche moins.
Non, toute seule, ça marche pas du tout. J'ai tenté d'expérimenter d'abord toute seule, ça a été non, c'est pas possible. À partir de deux jeux, ça marche, mais l'idéal, vraiment l'idéal, c'est trois. Et j'ai des copines qui sont qui travaillent dans des bureaux et qui l'ont fait, et ça a l'air de, enfin, ça crée de la connivence entre nénettes, et c'est plutôt rigolo, quoi.
Alors cette connivence, vous l'appelez dans mes bien chères sœurs, sororité.
Oui.
Et là encore, c'est un mot que vous n'êtes pas la seule à défendre, qui aujourd'hui, là encore, prend de la voix, de la force, de l'importance. Mais dans ce livre, mes bien chères sœurs, eh bien, vous décrivez aussi la complexité de cet horizon, parce que c'est comme la fraternité au fronton de la devise républicaine. C'est
oui.
Un horizon, on peut y aspirer, mais ce qu'il y a aussi entre femmes, entre filles, c'est de la rivalité.
Bah oui, c'est très difficile. C'est-à-dire que les femmes, on a été éduquées dans la rivalité. On est précaire en notre place, donc on a peur. Donc obligatoirement, la fille d'en face, on la prend comme une rivale et ça se passe pas bien. Donc la sororité, c'est pas quelque chose qui serait de l'ordre de l'essentialisme ou même de l'évidence. C'est pour moi une hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête qu'on peut avoir entre femmes un lien indéfectible, une force de frappe du coup commune énorme, et pour ça il faut être en connivence immédiate. Et pour ça il faut dans sa tête se dire c'est la frangine, ça va bien se passer et tendre la main directement. Alors c'est une éthique de vie parce que c'est pas toujours facile, les filles sont pas toujours sorores quand on rentre dans la pièce. Mais moi, j'ai fait le travail sur moi. Initialement, j'étais pas aussi violente que Nelly Arcan envers les femmes, mais parce que Nelly Arcan voit beaucoup de schtroumpfettes ou de larves.
C'est ce que vous appelez le syndrome de la schtroumpfette. Qu'est-ce que c'est
Le syndrome de la schtroumpfette, c'est quand une femme est la seule au milieu d'un groupe d'hommes et jouit de sa position d'unique femme. Et du coup, elle se définit non pas en tant qu'être qui a des... Il y a le schtroumpf farceur, il y a le grand schtroumpf, il y a le schtroumpf à lunettes. La schtroumpfette, c'est juste la schtroumpfette, quoi.
Ouais.
Donc, le syndrome de la schtroumpfette, c'est quand on veut pas laisser d'autres femmes sur le territoire parce qu'on défend son précaré de schtroumpf, quoi.
Donc la sororité, ben, c'est comme la fraternité des révolutionnaires, c'est une aspiration.
Exactement.
C'est un travail sur soi.
C'est un travail sur soi, c'est un travail aussi qui de communication, c'est-à-dire être capable d'envoyer des signaux qui sont pas des signaux d'agression et qui sont des signaux d'appel empathique aussi. Et pour moi, c'est à peu près la seule solution qu'on ait actuellement pour s'en sortir dans les problèmes sexistes, quoi. C'est de faire front entre femmes, d'être solidaire tout de suite et de faire des attaques dans l'humour. Vraiment.
Et pourtant, il faut bien prendre la mesure de la gravité de ce que vous proposez, Chloé Delhomme, parce que on lit sous votre plume cette phrase qui est quand même terrible. Hormis mon père, mes pires humiliations et mes plus grandes douleurs, ce ne sont pas les hommes qui me les ont infligées.
Non, ce sont des femmes, effectivement. Et c'est pour ça que la sororité a été un vrai travail sur moi. De distinguer ce qui était de l'ordre des coups de canif dans le contrat, on va dire, et de l'ordre de ce qu'il faut faire de bien et de bon avec autrui. Les grosses blessures, vous savez, Patrick Boucheron, les blessures amicales, parfois, c'est quelque chose qui peut être aussi dévastateur qu'une blessure d'amour. Il y a eu ça, il y a une femme qui est partie avec mon amoureux aussi. Ça peut être terrible de se faire piquer son mec par une fille. C'est quand même quelque chose qui, d'un point de vue du rapport sororal, est très très violent. Surtout quand on est une personne possessive. Et ça m'a demandé un travail infini parce qu'à partir de ce moment-là, blessée, j'avais très peur des femmes aussi pour moi. Et puis j'ai pas eu un rapport construit à ma mère puisqu'elle est partie quand j'étais petite. Donc du coup, c'est un combat, quoi. Ouais, c'est un combat ordinaire.
C'est ce que vous appelez la sororisation générale.
Voilà.
C'est un slogan au sens premier du terme. C'est
tout
un cri de guerre.
C'est un cri de guerre, sororisation générale.
Mais on sait que ça va pas être facile.
Mais on sait qu'il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Mais en même temps, franchement, je suis pas la fille la plus courageuse et téméraire du monde, ni la plus appliquée. Et j'ai bien réussi à développer un rapport sororal réel et quotidien. Comme une hygiène de vie, donc je vois pas pourquoi est-ce que les autres y arriveraient pas, et je pense que c'est la seule façon aussi d'avoir un rapport horizontal. L'horizontalité qui casserait toute forme de hiérarchie, un rapport sororal. Et ça, c'est quand même aussi une alternative politiquement parlant.
Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de Chloé Delhomme qui est venue avec Juliette Armanet.
Bah oui.
Elle est bien, c'est une mouflette elle aussi.
C'est une mouflette et ça c'est l'hymne des célibataires.
Ah.
Oui, cavalier seul.
Bah oui, c'est ça.
Donc j'aime beaucoup cette chanson, elle me donne force et courage assez régulièrement en ces temps de pénurie.
Mais il y a d'autres chanteuses d'ailleurs qui sont vos alliées dans votre... Je veux pas dire combat, Chloé Delhomme, mais enfin, en tout cas, dans votre manière, il y a Jeanne Chéral aussi.
Il y a Jeanne Chéral récemment qui a sorti une chanson qui s'appelle L'an 40 sur les femmes de 40 ans. Et nous sommes plusieurs à avoir participé à son clip. Il y a aussi Nous sommes plusieurs à avoir participé à son clip.
Alors, justement, bon, les temps sont durs, vous en parliez, d'où la nécessité, effectivement, de lancer ce cri d'alarme et ce slogan « sororisation générale ». Et en même temps, Chloé Delhomme, vous évoquiez le décompte terrifiant de luxoricides en France aujourd'hui. C'est terrifiant, mais c'est bruyant. On en parle. Et on en parle de plus en plus, et sur les murs de nos villes, eh bien, au moins maintenant, ça se voit.
Oui, maintenant, il y a des. Je pense que ce sont des associations qui se sont emparées de ça. Et je pense qu'on peut plus ne. Enfin, maintenant, tout le monde est au courant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années en arrière, peut-être même sincèrement 3 ou 4 ans. Le nombre de femmes en France qui étaient tuées par leur mari ou par leur ex-conjoint, pour les gens, c'était de l'ordre peut-être de 3 par an. Enfin, ils ne se rendaient pas compte du tout du chiffre. Maintenant, le problème, c'est comment faire pour intervenir avant que ça glisse, sachant que ça glisse vite, sachant que ça commence toujours. On sait que les violences faites aux femmes et les violences conjugales, tout est complètement lié, il y a un mot pour ça qui m'échappe, mais quand ça commence par de l'insulte et de l'humiliation, ça finit par des coups et ça finit par le meurtre. Enfin, on sait que c'est une chaîne, en fait. Et je ne sais pas comment pouvoir casser cette chaîne, si ce n'est qu'il faut que chacune dans son entourage soit super vigilante sur ce qui se passe autour d'elle, quoi. Je crois que la moindre femme qu'on a autour de soi, où on détecte qu'elle est victime même de maltraitance psychologique, eh ben, je pense qu'il faut intervenir, quoi, faut la mettre en garde. C'est une forme peut-être d'ingérence, mais qui moi me semble super nécessaire.
Alors justement, c'est avec les moyens de la langue et de la littérature que vous faites sonner ce manifeste féministe, mes bien chères sœurs.
C'est ma seule façon de pouvoir faire de l'ingérence, pour le coup.
Oui, c'est une ingérence, ouais. dans une histoire en cours, dont on ne sait pas trop, effectivement, comment la qualifier. Parce que, d'un côté, il y a tout ce que vous dites, c'est l'incipit de votre livre, le patriarcat bande mou, on a l'impression que les couillidés, comme vous les appelez, sont sur la défensive, mais c'est précisément dans cette situation-là qu'ils peuvent être les plus dangereux.
Exactement, c'est pour ça que c'est pas si paradoxal, je pense que c'est parce qu'on est arrivé à un stade où...
C'est la fin d'un cycle, quand
voilà,
même.
Voilà, le mal alpha est vraiment en danger, donc du coup c'est les derniers tressautements d'agonie de la bête, et du coup c'est des grands coups de queue et de la violence, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, moi. J'ai l'impression qu'on a affaire à un vieux dragon en train de rendre ses derniers souffles, mais qui se débat en balançant tout ce qu'il peut sur son passage, en détruisant tout ce qu'il a encore sous la main, quoi.
Est-ce que ça vous a surpris, quand même, Chloé Delhomme, de voir non seulement le mouvement MeToo, mais la manière dont, en France, puisque nous vivons en France, il a été... approprié, amplifié, relancé. Au fond, votre livre est paru en mars, je crois, dans la collection Fiction et Compagnie, aux éditions du Seuil. Et ben, depuis mars, beaucoup de choses se sont
encore passées. Non, mais c'est ça, on est vraiment dans la quatrième vague, c'est pas les prémices, on est en plein dedans.
Alors, c'est cette quatrième vague du féminisme, c'est un peu peut-être se faire les historiens improvisés de, voilà, ce que vous appelez donc la première vague, c'est quoi?
La première vague, c'est les suffragettes et les filles du mouvement ouvrier. Après, on a le mouvement du MLF. Ensuite, on a la troisième qui vient plutôt des États-Unis dans les années 80 et qu'on connaît après qui donne les théories queer ou aujourd'hui ça donne ça, disons. Et la quatrième qui est vraiment c'est Madame Tout le Monde, la quatrième.
Et oui, ce sont plus des militantes.
C'est plus des militantes, c'est fini. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a bon espoir. Et c'est pour ça aussi que je suis pas surprise que depuis mars, tout ça se soit amplifié et que ça ne soit que le début. Vraiment que le début.
Depuis que les réseaux existent, écrivez-vous, Chloé Delhomme, la quatrième vague féministe derrière les écrans se préparait. Internet a libéré la femme là où Moulinex a échoué.
Oui.
Ce qui est drôle d'ailleurs en plus.
Mais c'est vrai, c'est-à-dire que le fait d'avoir la libération de la parole sur les réseaux sociaux, Eh bien, pour parler d'harcèlement, ça libérait quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand une femme avait été victime au moment de Balance ton porc, par exemple, quand une femme avait été victime d'un porc précédemment, quand elle s'exprime dans l'espace public, elle est jaugée. Son corps est jaugé, la taille de sa jupe est jaugée, son attitude est jaugée.
Elle est exposée.
Elle est exposée et immédiatement il y a suspicion. Ne l'a-t-elle pas bien cherché à se faire coincer contre la photocopieuse, avec sa jupe trop courte et ses nichons qui sortent? On sait comment ça fonctionne. Le fait de s'exprimer sur les réseaux, c'était hors du corps. Et donc à partir de ce moment-là, toutes les paroles pouvaient se libérer en toute tranquillité, sans avoir l'impression et le risque d'être jaugée par autrui et d'être mis à mal, mis en cause. Donc ça a participé, je pense, aussi. Parce qu'évidemment, il s'agissait de libération tout court au début. Mais je pense que ça participait aussi. Et ça a grossi le mouvement. Et puis, cette espèce de... C'est très important ce qui s'est passé pour les femmes avec les réseaux. Parce que nous avons eu aussi l'épisode de la Ligue du LOL qui est tombé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que par cette libération de MeToo, il y a eu aussi la fin de l'impunité pour certaines personnes, certains réseaux.
Et tous les milieux n'ont pas encore été...
Il y a encore énormément de travail, je dis pas le contraire, il y a des histoires qui sortent très très régulièrement
et très lentement.
Et très très lentement, mais je suis vraiment intimement persuadée que c'est une vague de fond, que ça va être régulier, que les têtes vont tomber régulièrement, mais que le grand ménage est en cours.
Et en attendant, Chloé Delhomme, chacun doit faire attention avec les mots qu'il emploie.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui est évidemment au cœur de votre métier d'écrivaine.
Oui, est gardien de la langue, c'est quand même le minimum syndical quand on est écrivaine.
Mais oui. Alors, par exemple, vous proposez un moratoire sur le mot « connasse », que vous aimez bien, mais vous dites, on ne l'utilisera plus. Je vous lis,
tout à fait. Non, connasse, il faut arrêter. Il faut essayer de prendre en tant
que
femme.
Parce que vous le disiez beaucoup. Enfin, vous l'utilisez.
J'utilise énormément et j'ai arrêté de l'employer. Il faut faire attention. On est responsable aussi, donc. Je pense que si on fait attention à ce qu'on dit, alors il s'agit pas d'une...
C'est pas de la police de la langue.
Voilà, c'est
pour ça que je disais
dire.
Moratoire. Vous dites, pour l'instant, il vaut mieux éviter de dire ça.
On est dans une période particulière où je pense qu'il faut faire attention entre copines. Voilà, c'est tout simplement ça. Je pense qu'il y a suffisamment d'hommes qui utilisent le terme de connasse, avec tout ce qui va de pair avec la connasse, pour qu'on s'y mette, nous aussi. Je pense que quand on est en désaccord absolu avec une femme qu'on considère comme étant une infâme connasse ou une infâme pétasse ou une infâme quelque chose, infâme peut largement suffire.
Oui.
Voilà.
Oui.
Parce que ça désolidarise et ça donne du grain à moudre en face. La sororité, c'est un mouvement qu'il faut qu'on travaille entre nous, qui peut paraître excluant aux alliés. Mais c'est une période historique où on doit travailler entre nous. Les minorités ont toujours besoin, à un moment donné, de se retrouver entre elles, loin de l'oppresseur, pour faire le boulot. Et je pense que c'est la période qu'on traverse actuellement.
Et d'où l'intérêt pour vous de lire les féministes radicales? On parlait de Valérie Solanas en première partie de cette émission, qui avait été évidemment disqualifiée pour sa violence. Pour vous, effectivement, c'est d'abord aussi, enfin, c'est aussi son inventivité, littéraire qu'on doit envisager.
Qu'on doit envisager. Et puis, sinon, je pense que.
Mais vous n'êtes pas misandre en même temps, vous. Parce que
non,
c'est important.
Non, je l'ai été sincèrement. Du temps des mouflets de la Tropos, je l'étais vraiment. Je l'ai été. L'époque où je me suis prostituée pendant 3 ans, quand j'étais de 24 à 27 ans, je l'étais. Ça s'est tassé avec l'âge. Je suis devenue beaucoup plus humaniste, beaucoup plus ronde aussi dans ma façon de penser. Mais misandre, je l'ai été très très longtemps.
Et là, vous parlez au nom aussi des femmes qui ne le sont pas.
Bah oui.
Oui.
Là, je parle au nom de tout le monde ce coup-ci. J'ai pris la parole.
Et c'est ça. Donc, vous avez une sororité littéraire. On en a entendu quelques noms de ce panthéon personnel. Il y en a d'autres. Il y a d'autres.
Alors,
autrices qui vous aident
autrice,
en ce moment.
Il y a une autrice en ce moment que je relis beaucoup parce que on la ressort et on la réhabilite à raison. Il s'agit de Nelly Arcand. Où j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à être attentifs à son travail. C'est une jeune femme qui a publié en 2001. Elle, son premier livre s'appelle Putain. Ça reprend son expérience prostitutionnelle, mais c'est pas une expérience prostitutionnelle, c'est une langue, c'est vraiment une grande écrivaine. Et elle s'est suicidée en 2009. Il y a des pages sublimes sur le suicide qu'elle a pu écrire d'ailleurs. Mon ouvrage préféré d'elle, ça s'appelle Burqa de chair. Pour elle, la burqa de chair, c'était les femmes qui se font faire de la chirurgie esthétique, du coup sont recouvertes d'une burqa de chair. Elle-même pratiquait la chirurgie esthétique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est écartelée entre ce qu'elle dénonce et ce qu'elle est, parce qu'elle est ce qu'elle dénonce, et quelque part c'est ça qui l'a tuée. Et c'est une femme qui a une écriture folle. C'est des phrases qui sont avec plein de virgules. Nancy Houston parle de souplesse d'écriture chez Nelly Arcand, et c'est vraiment ça. C'est un exercice de haute voltige. Et chaque mot est vraiment au scalpel, sérieusement choisi. Enfin, c'est une grande autrice, et j'aimerais vraiment beaucoup que elle reste. Enfin, de toute façon, elle est déjà restée, mais jusqu'à présent, elle est souvent assignée au rayon sociologique. Parce que c'est une prostituée qui a pris la parole, alors que c'est vraiment une écrivain et qu'elle a fait d'autres livres qui ne parlent pas que de la prostitution.
Ça fait partie de ce qu'on appelait tout à l'heure votre matrimoine.
Mais
justement, lorsque vous êtes fait un nom, j'allais dire vous êtes refait un nom,
oui.
Chloé Delhomme.
Oui.
Vous avez été chercher Chloé chez Boris Vian.
Oui.
Et Delhomme chez Antonin Artaud.
Oui, chez Larvelhomme d'Antonin Artaud. Oui, tout à fait. Mais peut-être parce qu'une naissance par deux pères, c'était rigolo parce qu'infaisable. Je ne sais pas. Il s'avère que c'est, bon, après, en littérature, on a plus d'hommes que de femmes aussi. Oui. Donc,
mais Boris Vian, c'est important pour vous.
Boris Vian, c'est capital pour moi. Il a touché à tout. J'aime tout ce qu'il a fait à part le jazz parce que je déteste le jazz.
Ah mince.
Ah oui,
c'est la Chloé de l'écume
mais
des
oui,
jours.
Et ça a été un drame quand j'ai enfin mis la main sur le disque de Duke Ellington pour écouter ce que c'était Chloé quand j'étais adolescente, tombée amoureuse de l'œuvre de Vian. J'en ai pleuré de pas aimer. Mais non, le jazz, c'est pas pour moi. Mais Vian, c'est fondateur parce que c'est un rapport à la langue qui est complètement à l'extrême inverse du mien, parce que lui, il est dans une simplicité folle. Et quand on regarde, par exemple, j'avais vu le tapuscrit des fourmis, sa nouvelle. Eh bien, toutes les ratures, c'était pour aller d'un adjectif compliqué au mot petit. Vous voyez, c'était que de l'épure. Et alors que moi, c'est quand même pas tellement de l'épure en général. Mais je suis folle de lui. Là, c'est le centenaire de sa naissance. Il y a des événements autour de ça. J'y participe. Enfin, c'est important, Vian, pour moi. Artaud aussi, bien sûr. Artaud, c'est super important.
Bah, Artaud, c'est pour d'autres raisons, peut-être.
Artaud, c'est pour des raisons plus lourdes.
Plus lourdes.
Pour des raisons de ma boulerie personnelle, où je me sens en empathie tellement énorme avec ses textes. Et puis... pour moi, les cahiers d'Ivry, c'est parmi les plus belles choses du monde, quoi.
Vous avez fait partie de ce que vous appelez dans une interview assez magnifique dans Cosette en 2017 du peuple des pyjamas bleus.
Oui, bah oui. À un moment donné, je me sentais un peu porte-parole du peuple des pyjamas bleus quand j'étais souvent internée et que je faisais mes romans. Mais j'ai gardé une grande tendresse, c'est pas du tout le mot, mais en tout cas quelque chose de l'ordre de l'affect très très profond pour Artaud et les malades mentaux en général, je dirais.
Oui. Et la littérature, au fond, c'est ce que, si on dit en ce moment que elle serait réparatrice, consolante,
ça doit pas beaucoup
vous plaire, ça.
Non, bah, c'est-à-dire que la littérature soit consolante pour certains, c'est comme pour la littérature qui permet de s'évader. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, ça, c'est toujours arrivé, ça arrivera toujours, mais moi, mes livres, ils sont pas faits pour guérir. Après, quand,
Même si pour vous, ça a pu quand même jouer un rôle.
Le truc aussi qu'il faut pas que je sois de mauvaise foi. C'est-à-dire que le problème quand on fait de la littérature à partir de matériaux vécus, traumatiques, si on dit que la résilience passe par l'écriture, tout de suite vous faites du témoignage et puis de la littérature et vous êtes assigné.
Vous allez être ramené à ça.
Voilà. Et ça, il en est hors des questions. Donc il est possible qu'à une époque, j'ai mis un peu de mauvaise foi dans mon énorme refus de la réparation par l'écriture dans mon cas.
Mais c'était aussi, pardon de vous couper, Chloé Delhomme, mais c'est aussi parce que dans votre œuvre, vous ne cessiez au fond de déjouer cette littérature de témoignage par l'inventivité des formes.
Non, mais c'est ça.
Parce que vous avez, on peut dire effectivement que vous avez fait de l'autofiction, mais dans des formes qui étaient sans cesse mouvantes.
Oui, toujours vraiment dans de la recherche expérimentale et pas du témoignage brut. Mais ça n'empêche que la notion de résilience par l'écriture, pendant longtemps, j'avais du mal à l'admettre, moi-même d'ailleurs, hein, j'étais un peu dans le déni, comme si les livres me faisaient pas du bien, ce qui est totalement faux, les livres me faisaient du bien. En même temps, on souffre tellement parfois quand on est sur du matériau vécu lourd à écrire les livres que c'est de la douleur exquise dans ce cas-là, c'est encore autre chose. Mais je pense que la littérature est faite pour... moi, ce que j'attends comme lectrice, c'est qu'un livre me traumatise.
Oui.
J'attends de me prendre une énorme claque. Je pense par exemple à un livre d'une jeune femme qui s'appelle Justine Niogret. Le livre s'appelle Le syndrome du varan. C'est un témoignage sur une enfance massacrée. C'est un livre que je prenais quand on le lâche. Pour le reprendre, c'est dur. Voilà, c'est dur. On sait qu'on va passer un sale quart d'heure. Mais on a affaire à une grande langue et à de la grande littérature. Et ce que j'attends, moi, c'est que la littérature me foute une torgnole, pas qu'elle me fasse du care, quoi.
La torgnole, on la reçoit en vous lisant Chloé Delhomme dans Une femme avec personne dedans. Titre terrible quand on veut bien effectivement l'entendre ou le faire sonner à nos oreilles. C'est quand même aussi une entreprise de dévastation de la langue, comme chez Artaud.
Oui, il y a une volonté... Dévastation et poussée au bout. Non, la violence et la brutalité y sont, c'est sûr. Ouais, c'est sûr.
Mais puisque il y a une cause à défendre
toujours.
Et qu'on doit la défendre avec véhémence, dans Mes bien chères sœurs, vous dites Chloé Delhomme que au fond, être aussi drôle et inventive, ça sera plus efficace.
Oui, je pense que c'est la seule façon de s'en sortir. Après, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, je suis très seule, je suis nulipare, j'ai pas de famille, il y a que l'écriture pour moi, donc peut-être que j'ai tendance à y mettre tout, mais vraiment absolument tout, et du coup à croire qu'il y a que la littérature qui peut sauver le monde. Et donc du coup, comme il s'agissait pour une fois de me rendre utile, d'habitude mes livres je les fais vraiment pour moi et pour l'expérimentation littéraire et pas pour le message. En fait, d'habitude je raconte plus que je ne dis, ou vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là, là il s'agissait de
d'être un manifeste quand même.
Ouais, voilà, d'être un peu utile, de s'inscrire dans le collectif.
Et vous l'êtes. Et vous recevez beaucoup.
Ça c'est vrai que ce livre-là c'est assez beau parce que je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup et je me suis sentie très utile. Et j'ai beaucoup de témoignages de badaboum.
Ah, donc ça marche le badaboum.
Ça marche bien. Et
on
puis
peut
des,
l'essayer chez soi.
Et puis des femmes qui se, des témoignages de femmes qui me disent qu'elles se sont senties moins seules dans leurs problématiques après avoir lu le livre aussi. Et ça c'est vrai que ça fait plaisir. Habituellement j'ai aussi des retours de lecteurs en moins grand nombre, mais qui se sont sentis touchés par mes travaux, mais en général c'est sur des points qui sont pas quelque chose de l'ordre du positif ou de l'enlever ou d'avancer. C'est plus on se reconnaît dans la communauté du peuple des pyjamas bleus ou des grands dépressifs. Là il y a quelque chose de plus joyeux cette fois-ci.
Merci Chloé Delhomme.
Merci à vous Patrick Boucheron.
Matière à penser, Chloé Delhomme, Olivier Dupré, Sandrine Chaperon, Catherine Donné, Justine Wilde, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. La semaine prochaine, je cède bien volontiers ma place à Frédéric Worms. Il viendra nous parler des enfants. À bientôt.